Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, était en visite en Israël. Il a rencontré, bien entendu, le Premier ministre Benjamin Netanyahou. On analyse tout cela avec notre géopolitologue maison. Il s'agit d'Isaac Franco, par ailleurs animateur de Chercher l'erreur, que vous avez pu peut-être écouter hier soir, entre 17 et 18 heures chaque semaine. Chercher l'erreur sur Radio Judaïka. Eh bien, Isaac Franco était l'invité du 18 heures. Il s'exprime au micro de Jonathan Serrero sur la visite de Marco Rubio en Israël.
Et pour parler de cette rencontre ô combien importante dans le contexte des tensions diplomatiques actuelles, on retrouve notre invité Isaac Franco, spécialiste des États-Unis. Isaac Franco, bonsoir.
Bonsoir Jonathan.
Alors, le premier enseignement de cette rencontre importante, c'est que les deux hommes n'ont laissé transparaître aucune opposition dans leurs déclarations respectives. Certains observateurs évoquaient des divergences de vues entre Israël et les Américains, notamment sur l'opération israélienne au Qatar. En quoi ce soutien sans faille des États-Unis peut permettre à Israël de remplir tous ses objectifs de guerre ?
Alors, on craignait effectivement. Alors, Marco Rubio s'était déplacé en Israël, entre autres pour convoyer le mécontentement du président Trump après l'attaque israélienne à Doha. Mais Marco Rubio, dès son arrivée, a précisé qu'il fallait plus s'intéresser à ce qui s'est passé, mais penser à l'avenir. Et à partir de ce moment-là, les déclarations des deux responsables politiques, Benjamin Netanyahou et Marco Rubio, convergeaient dans la forme et dans le fond. En réalité, ils ont dit exactement la même chose. Ils ont manifesté par la présence de Rubio en Israël que le lien entre Israël et les États-Unis restait très fort, et que il fallait, pour mettre un terme à cette guerre que le président américain attend rapidement, que la libération de tous les otages soit effective, et également l'élimination du Hamas, qu'il cesse de jouer un rôle quelconque politique dans l'avenir de la bande de Gaza, qu'il soit démantelé, qu'il soit éliminé, qu'il soit totalement démilitarisé, et que la bande soit totalement démilitarisée. Donc on a entendu une convergence de vues entre les deux responsables politiques, comme s'il ne s'était rien passé quelques jours auparavant avec l'attaque israélienne au Qatar.
Comment vous l'expliquez, le fait que les deux hommes aient dit la même chose, presque la même chose, et qu'il n'ait pas fait mention, outre mesure, de cette offensive au Qatar?
Oui, on laisse ça de côté. Ça appartient au passé. Alors, on ne sait pas très bien si le président américain surjoue le mécontentement, ou bien il participe à sa manière à une forme de théâtre. On a un peu de mal à imaginer que les Américains n'étaient pas au courant de l'initiative israélienne. Cette région est une des régions les plus surveillées au monde, avec des satellites, avec des radars de dernière génération. J'ai du mal un peu à penser, à imaginer qu'une escadre de 12 avions composée de 8 F-15 et de 4 F-35 puisse tranquillement descendre la mer Rouge et se positionner sur la pointe de la péninsule arabique, et de là tirer des missiles balistiques visant le Qatar. Que tout cela ait échappé à l'œil scrutateur des États-Unis dans cette région hyper surveillée me paraît difficile. Maintenant, je pense que tout le monde joue un peu les hypocrites dans cette affaire. Il n'est pas non plus interdit d'imaginer que, eh bien, pour le Qatar, la présence du Hamas devient une liability, devient un poids qu'il est difficile de supporter. Et que, ma foi, l'intervention israélienne s'est peut-être fait également avec la complicité des Qataris. Et tout ce qu'on nous donne à voir, peut-être que c'est un théâtre d'ombre où les gens manifestent leur mécontentement, leur condamnation d'Israël. Je pense qu'un très grand nombre de pays arabes sunnites se frottent les mains en coulisses après avoir condamné vertement Israël sur le devant de la scène. Je pense que le Hamas a compris le message, que les personnalités que ciblait Israël aient été éliminées ou non, il n'en reste pas moins que le message politique est passé. Israël a démontré au monde, à la région, que son bras est suffisamment long pour atteindre tous les ennemis d'Israël. Et si c'est pas par cette attaque qu'ils ont pu être éliminés, Eh bien, ce sera par une autre action, peut-être terrestre, par des agents israéliens qui sont infiltrés à Doha ou en Turquie ou partout ailleurs dans le monde.
Alors, Isaac, les États-Unis soutiennent Israël, on l'a bien compris. Il y a un jeu, je dirais, de rôle qui se joue entre Israël, les États-Unis et le Qatar aussi sur cette question de l'offensive. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même tout de même des tensions diplomatiques persistantes entre Israël et les chancelleries occidentales. Et on sent sur ce dossier que Washington joue la carte bat en retraite et joue un jeu quelque peu ambigu. Comment l'expliquer?
Mais parce que toute la position des États-Unis à l'égard du Qatar est pour le moins ambiguë, sinon difficile à comprendre. On comprend mal comment un État dont tout le monde sait, je parle du Qatar, dont tout le monde sait qu'il est le grand financier des frères musulmans, qui s'insinue sournoisement dans toutes les sociétés occidentales, et que les États-Unis combattent sur leur propre territoire. On le voit dans les campus universitaires où le Qatar a financé jusqu'à 6 milliards de dollars ces 20 dernières années. Donc on connaît l'effet délétère de l'influence du Qatar partout ailleurs en Occident. On le combat, on sait parfaitement qui sont ces financiers, que c'est l'État du Qatar. On connaît également l'effet délétère et dangereux et déstabilisateur de Al Jazeera, qui est le porte-parole, le porte-voix plutôt du Qatar. On sait tout cela et malgré cela, eh bien, les États-Unis ont une position ambiguë à l'égard du Qatar comme à l'égard de la Turquie. Bon, j'avoue avoir...
Isaac, je vous écoute. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse des États-Unis de jouer ce jeu ambigu avec le Qatar?
J'ai du mal à penser que ce soit un aveu de faiblesse. Je ne comprends pas très bien la puissance politique, la puissance militaire américaine pour ramener, pour recadrer le Qatar. Ça me paraît facile à partir du moment où on connaît son influence délétère sur la région et sur le pouvoir déstabilisateur que joue le Qatar. Donc, mon point d'interrogation, c'est toujours le même. Je ne comprends pas cette relation entre les États-Unis et le Qatar et qui permet au Qatar d'être à la fois pompier et pyromane. On sait très bien qu'il enflamme la région, qu'il déstabilise la région. Le régime du Qatar, le Qatar a été mis à l'index par les monarchies du Golfe pendant plusieurs années, rappelez-vous, jusque 2021, je pense, de 17 à 21, parce que tout le monde se méfie de cela. Et les frères musulmans ont été mis à l'index, sont considérés comme organisations terroristes dans la plupart des monarchies du Golfe et également en Égypte et en Jordanie. Et on sait très bien qui sont derrière les frères musulmans, c'est naturellement les responsables du Qatar. Alors tout le monde vient aujourd'hui à Doha pour consoler le Qatar d'avoir été frappé aussi lâchement par Israël, alors que la résolution 1373 adoptée quelques semaines après les attaques sur les deux tours américaines en septembre 2001 interdisent tout régime à abriter des organisations dont on sait qu'elles ont des activités terroristes. Bien. Mais en même temps, là aussi, c'est un théâtre. Je pense qu'ils manifestent leur condamnation d'Israël, mais en coulisses, ils se réjouissent parfaitement de ce coup joué au Qatar.
J'ai juste une dernière question, Isaac, avant de vous libérer. Le Premier ministre Netanyahou a par ailleurs évoqué les risques de voir s'accentuer l'isolement d'Israël sur la scène internationale et notamment la scène économique. Est-ce une crainte justifiée lorsqu'on sait que le principal allié d'Israël sont les États-Unis et comment Israël peut parvenir à se débrouiller pour contourner tous ces boycotts?
La crainte d'isolement, elle est légitime et elle est réelle, effectivement. Ça se vérifie tous les jours. Je veux dire, si vous faites... Israël est certainement le pays le plus honni, le plus condamné, le plus controversé de la communauté internationale, bien avant des acteurs qui ont fait la preuve de leur malfaisance. Israël est sur toutes les lèvres et pas dans des termes très très élogieux. Donc isolement il y a, c'est certain. isolement politique, isolement académique, isolement artistique, isolement dans les médias, isolement politique. Certain que Israël ne s'est jamais trouvé dans une position aussi isolé qu'il l'est aujourd'hui. Peut-être faut-il remonter à 1982 et Sabra et Shatila pour retrouver ce même degré de condamnation et d'isolement de l'État d'Israël. Mais Israël a fait le pari de donner la priorité à ses intérêts sécuritaires au détriment de se faire bien voir de la communauté internationale. Il y a aujourd'hui des priorités à faire. Et ces choix se font au détriment, eh bien, de l'image qu'a Israël. Et Israël se montre suffisamment confiant que lorsque la poussière sera retombée et lorsque cette guerre sera terminée, aura connu son épilogue, eh bien, que Israël pourra petit à petit, eh bien, renouer avec le statut qu'il avait avant, refaire son image. Mais il y a des priorités. Aujourd'hui, c'est des priorités sécuritaires au détriment de, eh bien, au détriment de compliments. Comme le disait Golda Meir, je préfère vos condamnations à vos condoléances.
Oui, et notamment à ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Je vous remercie, Isaac Franco, d'avoir répondu à nos questions.
Merci pour votre invitation. Au revoir.